Bonjour. Nous l'avons entendu, la jeunesse de David a été autant, peut-être agitée d'un côté, mais autant de succès, autant de formation. Et nous savons que David a été appelé un homme selon le cœur de Dieu. Peut-on rêver d'un éloge meilleur, d'un éloge aussi flatteur? Et pourtant, nous connaissons suffisamment l'histoire de David pour savoir que ce fut aussi un roi despote, un roi adultère, un roi meurtrier. En fait, comment peut-on concilier ces deux facettes de la personne de David? Alors il me semble que ce que j'ai entendu, étant plus jeune, en général on répond que si David a péché, parce qu'on ne peut pas nier l'évidence, tout est rentré dans l'ordre dès le moment où David s'est repenti. Et c'est vrai que David s'est repenti. Mais je me pose la question, est-ce que cette explication n'est pas un peu légère? Est-elle satisfaisante au regard de la gravité de la faute commise, ou des fautes commises? Est-ce qu'elle ne serait pas un alibi parce qu'en bons évangéliques, on n'aime pas les textes contradictoires? Alors je vous propose d'essayer ce matin de comprendre cet épisode de la vie de David qui a été un épisode agité. Et c'est donc l'histoire de David et de Bethsabée. Alors nous lirons d'abord deux textes qui précèdent cette période de la vie de David. Et je remercie Michel de bien vouloir nous lire ces deux textes.
David va succéder à Saül, premier roi d'Israël. C'est pour ça que le premier texte a trait à Saül. Samuel dit à Saül, « Tu as agi comme un fou. » Tu n'as pas gardé le commandement du Seigneur, ton Dieu, celui qu'il t'avait prescrit. Maintenant, en effet, le Seigneur aurait établi pour toujours ta royauté sur Israël. Mais maintenant, ta royauté ne tiendra pas. Le Seigneur s'est cherché un homme selon son cœur, et le Seigneur l'a institué chef de son peuple, puisque tu n'as pas gardé ce que t'avait prescrit le Seigneur. C'est dans 1 Samuel 13. Puis nous lirons la prophétie de Nathan adressée à David. Lorsque tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta descendance après toi, celui qui sera issu de toi-même, et j'établirai fermement sa royauté. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom, et j'établirai à jamais son trône royal. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il commet une faute, je le corrigerai en me servant d'homme pour bâton et d'humain pour le frapper. Mais ma fidélité ne s'écartera point de lui, comme je l'ai écarté de Saül, que j'ai écarté devant toi. Devant toi, ta maison et ta royauté seront à jamais stables, ton trône à jamais affermi.
Merci. Il nous faut faire une autre lecture. C'est celle du récit de David et Bethsabée, mais vous souvenez peut-être que ce récit comporte deux chapitres dans le deuxième livre de Samuel, les chapitres 11 et 12. Alors, ce sera une lecture un peu longue, ce qui fait que je vous propose maintenant de résumer ces deux chapitres. Donc, juste là, à partir des textes que Michel a lus, tout s'est bien passé pour David. Alors, avec ces deux chapitres, c'est là que ces deux chapitres nous posent problème. David a envoyé son armée sous la direction de Joab, c'est le chef de l'armée, pour combattre les Ammonites. Donc les Ammonites sont à l'est du Jourdain. Et l'armée d'Israël a mis le siège devant Rabba. Rabba, c'est l'actuel Amman, donc la capitale de Jordanie. David, quant à lui, il est resté à Jérusalem et de la terrasse de son palais, il voit dans une maison voisine une femme en train de prendre son bain. Il la trouve très belle et il se renseigne sur son identité. Il s'agit de Bethsabée, fille d'Eliam, fils d'Aïtophel. Et Aïtophel était un proche collaborateur de David, un proche conseiller. Donc c'est le grand-père de Bethsabée. En outre, Bethsabée est l'épouse d'Urie, officier, un officier dans l'armée qui est actuellement sous les murs de Rabba. Alors David fait chercher Bethsabée et commet adultère avec elle. Quelque temps plus tard, Bethsabée fait savoir à David qu'elle est enceinte. David veut alors étouffer le scandale. Et dans ce but, il fait revenir du front Urie, le mari de Bethsabée, au prétexte de s'enquérir de la situation de l'armée. Mais David, dès que Urie est là, il le presse de rejoindre sa femme, et c'est un subterfuge destiné à faire croire que la grossesse de Bethsabée est l'œuvre de son mari, et non celle de David. Alors Urie refuse obstinément l'offre pressante du roi de passer la nuit avec sa femme, invoquant le fait que l'arche de l'Éternel, Israël, Juda sont dans des tentes, que son chef Joab et ses serviteurs sont dans des champs, donc près de Rabba. Alors, par solidarité avec eux, Urie tient bon dans son refus, même après avoir été invité par le roi à un repas, et un repas fort bien arrosé. Alors David ne voit plus d'autre issue pour étouffer le scandale que le crime. Il organise la mort d'Urie avec la complicité de Joab, le chef de l'armée. À son retour près de Rabba, après être rentré de Jérusalem, Urie sera placé en condition dangereuse où il mourra sous les coups de l'ennemi. Ainsi, son crime accompli, David peut légitimement épouser Bethsabée, puisque dès lors elle est veuve. Et sa grossesse sera considérée comme normale et non plus le fait d'un adultère. L'enfant naîtra dans le palais royal. Voilà pour le premier acte de ce drame. Mais Dieu n'assiste pas de manière impassible à un tel scandale. Alors il le fait dénoncer par son prophète, par Nathan, qui s'adresse au roi par cette parabole. Un homme riche, possédant de nombreux troupeaux, s'empare de l'unique brebis d'un pauvre pour nourrir ses invités. Et Nathan demande au roi, quel châtiment mérite cet homme riche? Et sans hésiter, David répond, la mort. Mais c'est facile, parce que c'est la loi. Eh bien, réplique le prophète, cet homme riche, c'est toi. Le roi despote, devant Dieu, n'est plus qu'un simple homme. Par la bouche de Nathan, Dieu rappelle ensuite à David tout ce qu'il lui a donné jusqu'ici, succès, richesse. Et il précise, et si c'est trop peu, je peux en ajouter encore autant. Mais pourquoi donc as-tu méprisé la parole du Seigneur en faisant ce qui lui déplaît? Vient alors l'annonce du châtiment. L'épée ne s'écartera jamais de ta maison. Je vais faire surgir ton malheur de ta propre maison. Par ce bref dialogue, Dieu a forcé le cœur de David, qui réagit par l'aveu de sa propre faute, le repentir et l'acceptation du châtiment. David dit alors à Nathan, « J'ai péché contre le Seigneur. » À quoi le prophète peut répondre, « Le Seigneur a passé sur ton péché. Tu ne mourras pas. La mort eût été l'exécution de la loi. » Mais le fils qui était né, lui, mourra. Le double châtiment surviendra comme annoncé par le prophète. L'enfant conçu dans l'adultère meurt, et plus tard, de graves scandales surviendront dans la famille du roi. Entre-temps, Bethsabée donne naissance à un second fils, légitime celui-là, nommé Salomon. On est à la fin du deuxième acte. Alors le troisième acte prendra beaucoup plus de temps. Il va s'échelonner sur plusieurs années. Après quelques années, éclate le premier scandale dans la famille de David. Amnon, qui était le fils aîné des différents fils de David à l'époque, Amnon viole sa demi-sœur, parce qu'il y avait plusieurs épouses, donc il y avait des demi-frères et sœurs. Amnon viole sa demi-sœur Tamar, et Absalom, le frère de Tamar, pour venger sa sœur, il organise l'assassinat d'Amnon. À l'occasion d'un banquet. Bonjour l'ambiance. Absalom est alors obligé de fuir pour échapper à la justice. Il faudra attendre encore 5 ans pour qu'il y ait réconciliation et pardon entre David et son fils. Encore quelques années plus tard, et la succession de David sera l'occasion d'un nouveau scandale. Donc Amnon l'aîné des fils étant décédé, c'est Absalom à nouveau, bien qu'il soit réconcilié avec son père, Absalom, qui tente d'arracher le pouvoir à son père, d'où une cabale dirigée par Ahithophel. Tiens, on retrouve là le grand-père de Bethsabée, qui a peut-être trouvé l'occasion de régler un compte avec David. Absalom réussit à rassembler un groupe important de partisans armés, et il se fait proclamer roi à Hébron. Il décide alors de marcher sur Jérusalem. David, surpris et par l'initiative et la trahison de son fils, quitte précipitamment Jérusalem. Absalom entre à Jérusalem, mais finalement, lorsque ses troupes passent à l'offensive contre celles de David, elles sont battues. Et c'est au cours de ces combats qu'Absalom, en fuite, reste accroché à un arbre par sa chevelure. Il est tué là par Joab, alors que David avait expressément donné l'ordre de l'épargner. Si David a finalement eu la victoire, cette victoire est très amère. Parce que, avec la mort d'Absalom, c'est le troisième fils de David qui disparaît tragiquement. Et David perçoit bien, dans tous ces événements, un enchaînement fatal avec son péché. Mais ce n'est pas tout. David rentre donc victorieux à Jérusalem, mais d'autres ennuis l'attendent. En effet, il est contraint de guerroyer à nouveau pour imposer sa royauté, aussi bien dans les tribus du nord que du sud. Or, c'est au cours de ces turbulences qu'une intrigue familiale tourne mal. Joab tue traîtreusement Amasa, c'est un autre chef militaire, dont il est jaloux. Or, tous deux étaient des neveux de David. Dans ce drame familial aussi, David reconnaît un effet lointain de son péché. Voilà pour le résumé du drame de ces chapitres 11 et 12. Que faut-il alors penser de ce récit? Pour moi, je dirais d'abord, quel désastre dans la vie de David. D'autant plus étonnant que les livres de Samuel et les textes qui ont été lus tout à l'heure montrent que jusqu'au moment où David a été séduit par Bethsabée, ces livres ne mentionnent aucune faute, aucun péché commis par David. Au contraire, ils soulignent comment David s'est gardé de faire le mal. C'est aussi étonnant si l'on se souvient de la prophétie de Nathan qui a été lue par Michel. Ta maison et ta royauté seront à jamais stables, ton règne à jamais affermi. Oui, le succès, la richesse et même les promesses à jamais, n'ont pas empêché le désastre. Mais on sait que le problème de la succession pour un roi était à l'époque très important et rendu difficile en raison des traditions, notamment celle qui donnait des droits importants au fils aîné. Or, David se rendait probablement compte que parmi ses 6 fils, à l'époque, aucun n'aurait été accepté par Dieu pour lui succéder. Et l'histoire, en tout cas, a montré que ce point de vue était juste. Alors comment David devait-il régler sa succession ? Lorsque nous ne voyons aucune issue, une solution de problème qui nous arrive, eh bien, ça nous arrive aussi d'être pris entre les promesses de Dieu, et peut-être aussi les signes qui accompagnent ces promesses, d'un côté, et l'impatience d'un dénouement de la situation, d'un autre côté. Abraham et Sarah, par exemple, à qui Dieu avait promis une descendance depuis fort longtemps, ont eu recours, faute de mieux, à une mère porteuse en la personne de leur servante. Et ils pouvaient penser que c'est Dieu qui leur avait accordé cette servante. Il n'est pas défendu d'agir avec intelligence pour faire l'œuvre de Dieu. Sauf que l'impatience et finalement le doute dans notre relation avec Dieu ne sont pas de l'intelligence. L'intelligence bien comprise doit précisément nous aider à discerner où est la limite à ne pas dépasser entre la foi et l'impatience, entre la foi et la confiance en Dieu, en nous souvenant qu'à Dieu, rien n'est impossible. Revenons à David. Compte tenu de sa situation familiale, est-ce qu'il a eu les mêmes soucis ? Peut-être a-t-il retourné ce problème dans sa tête alors qu'il faisait sa sieste sur sa terrasse. Et que voyant Bethsabée, apprenant qu'elle était israélite, ce qui n'était pas le cas de ses autres épouses, David a pensé que c'était là la réponse de Dieu à son problème de succession. Mais c'est vrai, David savait aussi que Bethsabée était une femme mariée. Ainsi, le regard qu'il a porté sur elle relevait certainement plus de la tentation d'une belle femme que du souci de la volonté de Dieu. Si l'intelligence humaine prend le pouvoir en nous, eh bien notre cœur est livré à la tentation. Et notre discernement disparaît, on peut dire, un peu comme par évaporation. Veillons à mettre en œuvre en nous l'intelligence de la foi. Et le désastre de la vie de David a commencé par la perte de repère entre tentation et volonté de Dieu. Et dans ce flou, David devient son propre prisonnier. Pour étouffer le scandale de l'adultère, il ne voit pas d'autre moyen que de commettre une nouvelle faute. Car David tombe là sur un homme, Urie, qui sait ce qui est droit, et qui, même dans l'ivresse, veut ce qui est juste et fait ce qui est juste. Et comme David ne veut pas revenir en arrière, il ne lui reste plus, comme porte de sortie, de la mort de cet homme. Et lorsque ce but est atteint, grâce à son habile subterfuge, David épouse Bethsabée, devenue veuve. L'illégitimité de l'enfant qui naîtra de l'adultère est bien cachée. Tout le monde va penser que c'est vraiment qu'il a été conçu après le mariage. Le crime est bien camouflé. David a sauvé son honneur. C'est du moins ce dont David est persuadé. Mais le désastre, c'est aussi de persévérer dans l'erreur. David se met dans un pétrin pas possible, car ses faits et gestes n'ont échappé à personne dans son entourage. Alors c'est incroyable comme la conscience peut être obscurcie dès le moment où l'on se laisse tenter par l'abus de pouvoir. Pourtant, pour David, les occasions de se remettre en question et les signes avertisseurs n'ont pas manqué. Le fait que Bethsabée était mariée, le refus obstiné d'Urie de rejoindre sa femme aurait dû réveiller sa conscience. En outre, David accumule les infractions de la loi. Et pourtant, il connaissait la loi. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne tueras point. autant de commandements que Dieu, que David connaissait et qu'il a enfreint. De plus, Dieu a laissé à David le temps pour réfléchir à son comportement, puisque ce n'est qu'une année après l'adultère que l'Éternel envoie Nathan, le prophète. Et enfin, en entendant la parabole de Nathan, David ne réalise encore pas en quoi il est personnellement concerné. Convoitise, adultère, meurtre, un enchaînement infernal qui provoque la colère de l'Éternel et son jugement. David le dira lui-même à Nathan, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et pour réveiller la conscience de David, il faudra enfin cette réponse du prophète, tu es cet homme-là. Remarquons maintenant qu'aux yeux de Dieu, David n'a pas cessé d'être l'élu et l'appelé de l'Éternel pour conduire son peuple. On peut s'en étonner, vraiment s'en étonner, parce que pour Saül, comme on l'a lu tout à l'heure, pour des erreurs que l'on pourrait juger moins graves que celles de David, selon notre morale, il a été rejeté par l'Éternel. Mais il faut souligner que David, mis en accusation par Nathan, et contrairement à Saül, confesse sans hésitation sa faute. « J'ai péché contre l'Éternel. » Il lui est alors répondu, « L'Éternel a pardonné ton péché, tu ne mourras pas. » Alors il y a là un élément essentiel de ce récit, à savoir que l'aveu et le repentir de David, après ce parcours bouleversé et probablement douloureux, l'aveu et le repentir entraînent le pardon de l'Éternel et mettent David au bénéfice d'une grâce inouïe. Pensez donc, non seulement il ne mourra pas, mais son union avec Bethsabée est légitimée. De cette union naîtra Salomon, l'héritier tant attendu, et dont le nom signifie « aimé du Seigneur ». Et enfin, Bethsabée entre par là dans la généalogie du Christ. Oui, l'étendue des bénédictions qui relèvent du pardon divin est immense. Toutefois, être pardonné ne signifie pas que les conséquences du péché soient supprimées. Et ceci afin que personne ne puisse dire que le péché reste impuni. Première conséquence, la mort de l'enfant conçu dans l'adultère. S'il y a dans ce drame une victime innocente, c'est bien celle-là. Cette mort a de quoi provoquer un sentiment de révolte. Je dirais non seulement à cause de sa mort, mais aussi par l'opprobre qui pesait sur lui. En effet, cet enfant n'a pas eu droit à un nom, bien qu'il ait vécu 7 jours. Il est désigné par l'enfant dans les textes, le petit, ou pire encore, l'enfant de la femme du riz, c'est-à-dire l'enfant de l'adultère. La comparaison avec Salomon, nommé dès sa naissance l'aimé du Seigneur, est évidente. On ne doit donc pas oublier que dans tous les drames humains, il y a quelque part des innocents qui payent, victimes des mauvaises actions des acteurs du drame. Et à un autre niveau, nous voyons que dans cet enfant, l'image de la victime innocente qui a subi l'opprobre de Dieu à cause des péchés de tout être humain. C'est dire que nous aussi, nous sommes cet homme-là, cette femme-là, qui bénéficions pour notre salut de la mort de l'innocent. On a évoqué tout à l'heure les autres conséquences du péché de David. Pour l'instant, je n'y reviens pas. Mais pour ce qui nous concerne, bien que nous soyons sûrs du salut qui nous est offert, nous avons aussi à assumer, par les difficultés et les souffrances qui marquent nos vies, les conséquences du péché. Mais notre révolte devant la justice, et peut-être ses conséquences que nous devons assumer, notre révolte, c'est aussi celle de Dieu. Car si pour l'aveu et le repentir sincère il y a le pardon, Pour les excuses, il ne peut y avoir que la colère et le mépris. En particulier, toute spéculation tendant à pécher pour que la grâce abonde, c'est lorsque Paul écrit aux Romains, toute spéculation de ce genre ne pourra que provoquer la colère de Dieu. Quant au repentir de David, ce n'est pas de la légèreté, mais une attitude sincère qui peut nous servir d'exemple. En fait, la vraie repentance, elle est faite d'une part de la connaissance, et je dirais de la reconnaissance du péché, et d'autre part de la connaissance de la grâce. Dans un premier temps, il y a la crainte et l'appréhension de la colère de Dieu, et ensuite la confiance en son immense miséricorde. Le repentir sincère honore Dieu parce qu'il exprime la confiance en sa miséricorde. Alors il faudrait relire le psaume 51 pour suivre un peu le cheminement de David dans cette période difficile, après ses fautes difficiles. Il en sera parlé tout à l'heure au moment de la scène. Dans ce psaume, on sent vraiment David affligé et la conscience chargée, travaillée par la révélation de son péché. Et sur la fin, il se console par l'assurance et la confiance en la bonté et la miséricorde de Dieu. Alors, devant cette interpellation, tu es cet homme-là, tu es cette femme-là, ayant l'humilité de répondre, oui, je suis cet homme-là, je suis cette femme-là. Pour que nous puissions aussi entendre la réponse, ton péché est pardonné. Amen.